vous corriger, il n'y a pas une mutation génétique, mais il y en a évidemment des milliers. Et en effet, quand cette mutation ou ces mutations touchent des gènes en particulier, eh bien on est du coup plus à risque de faire un jour un cancer dans sa vie. Alors c'est vraiment important comme notion de... On ne transmet pas le cancer, mais on transmet un risque plus important d'un jour dans sa vie faire un cancer. Donc c'est quand même important comme nuance. Et pour répondre à votre question, les mutations qui vont toucher des gènes qui ont une implication dans la réparation de l'ADN, alors c'est un peu complexe, mais c'est la base du développement du cancer. Quand on répare moins bien l'ADN, on est plus à risque de faire des cancers. Et donc quand on a depuis la naissance une mutation sur un de ces gènes, et donc ce gène fonctionne moins bien, donc le mécanisme de réparation de l'ADN est moins... On est donc plus à risque. Alors, c'est un concept qui est né il y a une vingtaine d'années avec la découverte de donc, toute la lecture du génome. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on considérait que le cancer n'était vraiment que très très rarement une maladie héréditaire. C'est une maladie liée à des facteurs environnementaux divers. Facteur principal, c'est l'âge. Plus on vieillit, plus on est à risque de cancer. Pourquoi ? Parce que plus on vieillit, plus l'ADN a tendance à s'abîmer. Et donc on revient au départ, si on répare moins bien l'ADN, on est plus à risque de faire des cancers.
Et quand on parle de cancer, on l'a dit, ce sont quoi ? Essentiellement des cancers du sein que l'on va retrouver. Finalement, ces mutations sont plutôt, vont plutôt toucher des femmes, ou des hommes d'ailleurs, mais victimes de cancer du sein.
Alors, on a découvert vraiment le cancer héréditaire sur base d'un gène qu'on appelle le gène BRCA, BR pour breast, CA pour cancer, donc c'est vraiment le gène du cancer du sein. Et en effet, quand ce gène-là était abîmé, il donnait un risque beaucoup plus important pour les femmes de faire un jour un cancer du sein. Pourquoi les femmes ? Parce que les femmes ont de la poitrine, moins les hommes, mais on en a parlé à une émission l'année passée, je pense. Les hommes également peuvent faire un cancer de la glande mammaire. Mais donc, oui, alors aujourd'hui, c'est, avec les évolutions en génétique, ce n'est plus seulement ce gène-là qui peut être muté, mais on a découvert que plein d'autres gènes peuvent être mutés, et en fonction du gène qui est abîmé, ben le risque de cancer est différent. Donc on a énormément parlé du cancer du sein, mais on a aujourd'hui, on connaît des gènes qui, quand ils sont mutés, prédisposent plus à des cancers du côlon, à des sarcomes, à plein d'autres types de cancers, puisqu'aujourd'hui on considère que 5 à 10% de l'ensemble des cancers peut avoir une origine génétique héréditaire.
Et le problème, c'est que ben, Véronique, moi ou vous, on n'est pas conscient finalement que l'on peut être porteur ou non de cette mutation ou de ces mutations génétiques. On va y revenir dans quelques instants. On a par téléphone Sarah qui
a eu un premier cancer du sein il y a à peu près 15 ans. Et au deuxième cancer du sein qui était l'autre sein, donc en plus, comme disait son oncologue, il n'y avait pas forcément une récidive, mais une récidive dans l'autre sein. Et là, la question s'est posée de pourquoi on ne ferait pas une recherche génétique. Est-ce que vous n'êtes pas un bon sujet pour, étant donné qu'il y a eu deux cancers du sein? Après, il faut savoir que la recherche génétique ne se fait pas seulement avec deux cancers. Ma maman a dû rentrer tout un arbre généalogique assez conséquent sur toutes les générations, on va dire, parallèles et au-dessus d'elles. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de cancers, je pense plus d'une dizaine dans notre famille, que ça soit sein ou ovaire pour les femmes, et je pense colon ou pancréas pour les hommes. Donc, la généticienne de l'époque nous a conseillé de faire une recherche génétique, en tout cas à ma maman. Il s'avère qu'elle a le BRCA1, qui est un cancer, une mutation génétique principalement pour les femmes sains ovaires. Et donc, à ce moment-là, la question s'est posée de... j'ai une petite sœur, et donc, est-ce que vous voulez savoir, les filles, si oui ou non vous êtes porteuse de ce gène ? Moi, je n'étais pas forcément pour, parce que j'avais un peu peur de vivre après ça avec une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de moi, alors que j'avais vécu, on va dire, des années sans le savoir.
Sarah, on se rend compte que c'est parce que la maman a vécu un cancer du sein ou un double cancer du sein qu'à un moment on va bien s'inquiéter et faire les recherches. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être porteur ou porteuse sans le savoir et il n'y a pas de tests qui sont prévus.
Alors, le témoignage est très intéressant parce qu'il documente un cas typique. Et donc, en effet, vous avez dit très justement, on n'est pas censé connaître et savoir qu'on est porteur d'une telle mutation. Cependant, aujourd'hui, on a des critères bien précis pour en discuter avec les patients, c'est-à-dire des histoires familiales. Et là, Camille, je pense, l'a bien décrit. L'idée, c'est qu'elle a une maman qui a fait pas un cancer, mais plusieurs cancers. Elle a eu plusieurs cas dans sa famille. Ça rejoint l'idée qu'en fait, quand on porte cette mutation, mais donc on est plus plus à risque de faire des cancers. Et donc, c'est des cancers souvent plus précoces et plusieurs. Et donc, quand on a ce genre d'histoire familiale ou personnelle, on encourage alors, enfin, aujourd'hui, on fait d'office un test chez la patiente pour vérifier qu'elle n'a pas de mutation. Et je rebondirai peut-être juste sur une autre chose, parce que c'est quelque chose auquel je suis souvent confrontée en consultation, c'est l'idée, tiens, mais en fait, moi, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ou pas? Et c'est là où, oui, aujourd'hui, si on encourage tellement, c'est parce qu'on a, en Belgique, on a la chance d'avoir accès à des examens de dépistage, ils sont remboursés, et donc, et en plus, on a une technologie de pointe. Et donc, fort de tout ça, c'est vrai qu'il y a un réel avantage à une diminution de la comorbidité et de la mortalité liée au cancer quand on peut adapter, en fait, le dépistage au risque. Et donc, si on sait que vous êtes à plus haut risque, ben, on va adapter le dépistage à votre risque.
Alors, on propose à ce moment-là.
Chez moi, à savoir une alternance entre des IRM sains et puis des échomammos. Et donc, tous les 6 mois, on va être testé afin de vérifier qu'il n'y ait pas le moindre petit début de cancer niveau sein. Et point de vue ovaire, ça sera une échographie ovarienne tous les ans, parce que malheureusement, le cancer de l'ovaire, mais Dr. Kint en parlera peut-être mieux que moi, mais est assez mal détecté. Et même, on pourrait faire une écho et entre guillemets, le lendemain, il y a quelque chose et donc on passe à côté parce que c'est, voilà, c'est plus enfoui, à mon avis, à l'intérieur du corps. Et donc voilà, et donc ça, c'est ce qu'on me propose et ce que je fais pendant 7 ans.
En contrôle, en effet, on propose des contrôles plus réguliers et plus précoces. Donc, on commence à 25 ans tous les 6 mois, contrairement à la population générale qui est à 50 ans tous les 2 ans. Et on propose aussi, par rapport à ce qu'on a proposé à Sarah, ce qui est intéressant, je fais de la génétique depuis 15 ans. Les chirurgies de réduction de risque, c'est quelque chose qu'on abordait très peu en Europe il y a 15 ans parce que c'était extrêmement mutilant.
C'est quoi une chirurgie de réduction de risque?
C'est-à-dire, c'est une chirurgie, par exemple, pour les seins, c'est enlever la poitrine pour réduire le risque de cancer du sein. Donc c'est assez violent, entre guillemets, comme approche. Mais aujourd'hui, encore une fois, grâce aux techniques chirurgicales, c'est une réelle option que moi, je développe très, très concrètement en consultation, parce que oui, aujourd'hui, les chirurgies sont très esthétiques, sont très peu, beaucoup moins mutilantes qu'à l'époque, et avec un résultat tant esthétique que sur le risque de cancer très, très conséquent. Et donc, il y a vraiment deux options. L'option du suivi régulier et l'option de la chirurgie de réduction de risque. Et encore une fois, on peut choisir l'une puis l'autre. Il n'y a pas, on peut enlever sa poitrine dans un second temps.
Qu'en est-il pour les cancers de l'ovaire?
Le témoignage de Sarah, il n'y a pas de dépistage agréé pour le cancer de l'ovaire, ça ne se dépiste pas. Et donc, aujourd'hui, avec une mutation BRCA1, les recommandations, c'est d'enlever les ovaires avant l'âge de 40 ans.
Ah oui, donc
et
là, oui, c'est radical aussi.
C'est radical, c'est lié à une ménopause précoce. Oui. Et là où on peut être très fiers en Belgique, c'est qu'on a développé une étude, on fait partie d'une étude internationale pour essayer justement d'étudier le fait qu'on pourrait laisser les ovaires en place 5 ans en plus pour ces femmes-là. Donc, au lieu de les enlever avant 40 ans, on pourrait les enlever avant 45 ans, mais on enlèverait juste les trompes avant. On rentre un peu dans du détail technique, donc pas aller plus loin, mais voilà, c'est vraiment l'idée qu'il y a des évolutions, et donc on est attentive au fait que, voilà, toutes ces chirurgies, on essaye de faire vraiment au mieux pour le bien-être du patient.
Et on va en face à des personnes qui ont beaucoup de questions. Peu importe la thématique, en fait, on se rend compte que les personnes, soit qui apprennent un diagnostic ou qui apprennent justement une histoire familiale ou qui ont justement, comme Sarah précisait, un cancer qui se déclenche, ont beaucoup de questions en tête et n'obtiennent pas forcément des réponses auprès des équipes médicales. Et donc, on essaye d'apporter un soutien, mais comme vous l'avez dit, soit psychologique, psychosocial, pour justement soutenir ces personnes dans ces moments-là.
On va revenir, si vous le voulez bien.
L'explication pour ce gène très précis de BRCA, c'est qu'il est plus souvent vecteur que malade à cause de cette mutation. Donc, il va transmettre à ses enfants et à ses filles en particulier. Mais depuis quelques années, on sait que ces mutations induisent aussi un risque plus important de cancer de la prostate. Et donc, depuis quelques années, on rentre dans ces familles BRCA par des cas de cancer de la prostate. Et donc, les urologues aujourd'hui et les onco-urologues, ceux qui traitent le cancer de la prostate, sont depuis quelques années très sensibilisés au fait que les hommes peuvent aussi porter une mutation du gène BRCA, et donc important pour lui parce que ça peut changer le traitement de son cancer de la prostate.
C'est-à-dire ?
On a accès aujourd'hui, sur base de la présence d'une mutation génétique, à des traitements ciblés, que ce soit pour le cancer du sein, de l'ovaire ou de la prostate, et qui vont cibler la mutation BRCA. Et donc c'est une information très pertinente aujourd'hui pour les oncologues qui s'occupent de ces différents cancers, et puis évidemment pour la famille de ces gens-là. Donc ça a un impact pour le patient lui-même qui fait face au cancer, parce qu'il a un traitement chirurgical ou une thérapie différente, et pour sa famille. Donc il y a un vrai impact aujourd'hui de cette génétique, d'où la fameuse semaine de sensibilisation au fait que les cancers peuvent avoir une origine héréditaire.
Oui, d'où l'importance évidemment d'informer, d'en parler, que ce soit pour des hommes et pour des femmes. Et évidemment, on va poursuivre ce...
mutations génétiques qui vont lier à un cancer, mais ici, ce sont des mutations acquises par des facteurs de l'environnement, alors qu'ici, nous, dans l'émission, on parle des mutations qui sont présentes depuis la naissance, qui sont constitutionnelles depuis l'embryogenèse et qui ne bougent pas jusqu'à notre mort.
Je m'en rends compte, nous écrit Dani, que j'ai pas mal de personnes dans ma famille très proches, mon frère, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, qui ont eu un cancer, et je me demandais s'il fallait que je consulte pour avoir un diagnostic et chez quel spécialiste.
Il y a toujours des facteurs d'âge, l'âge auquel se présente et diagnostiqué le cancer, des facteurs aussi de type de cancer, il faut que ce soit plusieurs types identiques. Et donc la question pourrait se poser dans un premier temps aux généralistes ou aux gynécologues, parce qu'aussi il y a l'idée qu'on a parfois l'impression d'avoir énormément de cancers dans sa famille, puis quand on dézoome un petit peu et qu'on fait des arbres généalogiques, on se rend compte qu'il y a une partie qui est du côté maternel, une partie qui est du côté paternel, et donc ça ne s'additionne pas dans les risques. Et donc je pense que la question doit d'abord être posée auprès d'un généraliste ou d'un gynécologue pour savoir, tiens, est-ce que avec ma famille, j'ai une indication d'aller voir un généticien. Et l'évaluation de risque, d'abord, on essaye de la faire avant que le risque n'apparaisse. Et comme elle a dit Sarah, parfois on opère une chirurgie de réduction de risque et on trouve déjà un début de cancer.
Mais une fois qu'on a effectué cette ablation, il n'y a pas de risque que ce cancer s'installe ailleurs.
Non.
On a mis en place, donc déjà depuis un an et demi, hein, plusieurs outils pour pouvoir informer déjà par exemple les patients, les personnes touchées par une mutation génétique, mais aussi, comme le docteur Hodkin le disait, le réseau des soins de santé de première ligne, que ce soit les médecins généralistes, les kinés, les gynécologues, pour qu'ils puissent justement avoir accès à une information fiable et vérifiée. Donc on travaille avec un comité scientifique qui vérifie et donc qui valide toutes les informations qu'on peut transmettre au public. Et ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des campagnes tout public et vraiment à grande échelle. Donc ici, par exemple, à l'occasion de la semaine du cancer héréditaire, on a vraiment fait une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux, dans des magazines tout public pour pouvoir justement toucher un maximum de personnes. À côté de ça, on a mis en place un site internet avec une helpline et aussi un panel de brochures, hein, de guides. Par exemple, il y en a un guide sur la double mastectomie préventive qui peut apporter une série de réponses aux premières questions qu'une personne peut se poser. Voilà, donc on essaye de jouer un petit peu sur différents tableaux pour pouvoir toucher un maximum de personnes, que ce soit tant des personnes touchées personnellement par une mutation génétique, mais aussi leurs proches et surtout le grand public.
Mais sans doute parce que je n'avais jamais regardé les chiffres non plus et que j'avais décidé, entre guillemets, de vivre dans cette vie un peu comme avant l'annonce, et donc de ne pas vraiment m'y intéresser. Je pense que malgré tout, les chiffres m'ont permis de conscientiser le risque et le risque grandissant parce que malheureusement, bon, c'était 6 jours après mes 40 ans et en effet, après 40 ans, le risque augmente, sauf si je me trompe, mais de manière assez significative et donc ça m'a sans doute alertée. Alors c'était un cadeau d'anniversaire je n'attendais pas, évidemment, mais qui a été quelque chose qui en gros était quasiment inscrit. Alors je ne dis pas que
tout... On est porteur d'une mutation, le cancer est plus précoce. Donc oui, on commence le dépistage à 25 ans parce que le risque apparaît même à 30 ans pour les femmes porteuses d'une mutation du gène BRCA1. Dans la population générale, le risque est beaucoup plus de cancer existe. Et comme on l'a dit au début, l'âge est un réel facteur de risque. Plus on avance en âge, malheureusement, plus on peut être confronté à un risque de cancer ou cancer.
Sincèrement, l'envie de vivre de façon, on va dire, consciente et je pense vraiment que c'est une chance aujourd'hui d'avoir ces outils qui permettent de nous mieux nous protéger, parce que c'est quelque chose que, à la base, je voyais plutôt comme une épée de Damoclès. Aujourd'hui, je vois ça plus comme une chance, une possibilité de passer à côté, ou en tout cas me protéger au mieux. J'avoue que la seule chose que je me souhaite, c'est d'être heureuse et de ne plus jamais en faire un. Normalement, tout a été fait pour, et les premiers examens sont super bons, donc ça, j'ai une chance énorme. Et peut-être essayer, oui, de témoigner gentiment et avec toutes les personnes qui le souhaitent, que forcément, ce n'est pas une épée de Damoclès, ce n'est pas quelque chose de forcément négatif, et que tout le en tout cas moi, mon expérience, toute la situation m'a permis de grandir, d'évoluer avec beaucoup de douceur et beaucoup de bonheur, entre guillemets. Oui. Je veux dire que ça trouve, entre guillemets, de ne pas avoir le désir d'enfant depuis toujours. Donc, entre guillemets, la question ne se pose pas. Par contre, c'était la seule chose que je m'étais dite. C'est-à-dire que quand j'ai été chercher les résultats il y a 7 ans et qu'on m'a dit que j'étais porteuse, je n'avais pas de problème à la vivre moi-même en ne faisant pas, entre guillemets, de chirurgie préventive. Mais par contre, si j'avais le désir d'enfant, j'aurais tout de suite été chercher les résultats. Donc, c'est sûr que je pense que la transmission est quelque chose d'important. Par contre, comme je le disais à ma maman qui, elle, nous l'a transmise, c'est qu'elle a porté cette culpabilité. Donc, ça remonte à des années, enfin, des générations bien au-dessus d'elle. Donc, c'est comme si je disais, ne t'en veux pas à toi. Je veux dire, alors, il faudrait aller déterrer, je ne sais pas quel arrière-grand-père pour lui dire, dis, qu'est-ce que tu as fait? Donc, voilà. Donc, la question des enfants, heureusement, ne se pose pas, mais elle se serait posée, c'est sûr.
Docteur. Dépistage pré-implantatoire, et pour vous expliquer, c'est l'idée en fait de sélectionner un embryon qui ne porte pas la mutation. Donc pour les femmes qui le désirent, et ce n'est pas du tout quelque chose qu'on recommande, mais on informe, il est possible de ne pas transmettre la mutation pour une femme porteuse de cette mutation.
Et pourquoi est-ce qu'on ne le recommande pas?
À l'aigle de bioéthique, parce que tous les pays ne le font pas, encore une fois en Belgique on est assez précurseur par rapport à ça, la sélection embryonnaire repose sur 3 règles. Donc ça doit être pour des maladies précoces, incurables et mortelles. Et le cancer du sein ne répond pas à ces critères. Alors donc c'est quelque chose pour éviter à une éventuelle fille, quand elle-même aura 25 ans, d'être confrontée à ça. Et on espère que d'ici là, la médecine aura fait énormément de progrès. Donc bien sûr, une femme peut avoir accès à ça pour des raisons psychologiques. Et même, c'est important pour elle de ne pas transmettre la mutation. Et donc on les soutient et le projet est tout à fait accessible. Mais quand je dis on ne le recommande pas, ce n'est pas une obligation. C'est vraiment une discussion de couple. Mmh.